France Info.
Et c'est un grand changement pour l'Allemagne aujourd'hui. En ce 1er avril, le cannabis récréatif est devenu légal. C'était une promesse du gouvernement d'Olaf Scholz. La loi autorise les consommateurs majeurs à cultiver chez eux 3 plants de cannabis ou à s'en procurer 50 grammes chaque mois en adhérant à des Club Cannabis, des associations. C'est l'une des législations les plus libérales d'Europe. Mais comment cela se passe-t-il ailleurs dans le monde? Nous filons tout de suite au Canada, dans le Club des correspondants, où cela fait 6 ans que la vente libre de cannabis est autorisée. Le but en 2018 était de lutter contre le crime organisé qui profitait de ce lucratif marché. Pascal Guéricola, est-ce que l'objectif au Canada est atteint?
En partie, oui. Mais le marché noir reste quand même une réalité. On estime qu'environ la moitié des ventes se fait toujours de façon illégale, surtout pour les produits comestibles à base de cannabis, et ce, à fort taux de THC, la substance psychotrope. Le reste se vend en boutique. Leur nombre et leur forme dépendent beaucoup de chaque province canadienne. Dans la plus peuplée, par exemple, l'Ontario, les magasins poussent littéralement comme des champignons. Au Québec, en revanche, il s'agit de commerces d'État beaucoup moins nombreux. Mais ce qui a le plus changé en 6 ans, c'est surtout la structure de cette nouvelle industrie.
Et le secteur a dû attirer beaucoup d'investisseurs au début.
Exactement. Les 2 premières années ont ressemblé à une véritable ruée vers l'or avec une course à la croissance. Sauf que la réalité rattrape maintenant les producteurs. 1/3 des entreprises qui ont des graves problèmes financiers au Canada appartiennent au secteur du cannabis. En cause notamment les règles très strictes du gouvernement pour faire pousser cette plante et la commercialiser. Sans compter que les pouvoirs publics ne se gênent pas pour imposer lourdement ce produit. C'est le constat que fait Pierre Leclerc. Il dirige l'Association québécoise de l'industrie du cannabis.
Le poids de la taxation et des différents frais gouvernementaux sur les produits de cannabis sont un frein à la capacité de l'industrie légal de compétitionner en termes de prix contre l'industrie illégale. Il est très difficile pour elle de devenir rentable.
Et côté consommation, quel effet a eu la légalisation?
Au début, les opposants à cette mesure ont prédit une véritable catastrophe sur le nombre d'usagers, qui finalement ne s'est pas concrétisée. Année après année, on estime qu'un Canadien sur 5 fume régulièrement ou occasionnellement, surtout parmi les 18-34 ans. Un chiffre relativement stable. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire partout. Plusieurs villes interdisent le cannabis dans les parcs publics, par exemple, tout comme les propriétaires de certains immeubles. Donc, en théorie, le Canada autorise la vente et la consommation de cannabis pour les adultes, mais dans les faits, pouvoir fumer dépend du lieu où l'on se trouve.
Pascal Guéricola, qu'en est-il au Maroc, le premier producteur mondial? C'est ce que nous allons voir avec notre correspondant, Cédric Kelfi. Déjà, la première récolte légale se termine au Maroc.
Oui, une première récolte de 294 tonnes de cannabis légal semée sur 277 hectares qui ont reçu l'autorisation de production de ce nouvel or vert. On est loin de la superficie totale de 55 000 hectares de cannabis que compte le Maroc selon l'ONU. Mais c'est un début pour ce cannabis qui sera prochainement exporté sous forme de CBD, de THC ou encore de produits pharmaceutiques ou cosmétiques. Pour mettre en œuvre cette ouverture votée en 2021, une agence d'État, l'ANRAC, a été mise sur pied. Le régulateur a décidé de fragmenter le secteur en différentes licences. 430 autorisations de culture ont été délivrées, 3 licences de transport de cannabis, 179 licences de transformation ont été accordées, dont 7 seulement à usage médical. Il y a aussi des licences d'importation de graines, d'exportation de produits finis. Bref, on est loin d'une légalisation à l'américaine avec des dispensaires ou des coffee shops. La production marocaine semble destinée principalement à l'export.
Est-ce que cela veut dire que le cannabis peut être un levier de développement pour la région rebelle et montagneuse du Rif?
C'est ce qu'espèrent en tout cas les autorités. Il faut préciser que les cultures ne sont autorisées d'ailleurs que dans cette région. Certains ont obtenu des autorisations et se sont rapidement regroupés en coopératives afin d'espérer mieux tirer leur épingle du jeu. Mais le cannabis à usage thérapeutique est une goutte d'eau face au cannabis récréatif. La route est donc encore longue et si le haschich marocain dispose d'une réputation bien installée, il peine tout de même à faire vivre les petits producteurs. On estime en effet que seulement 4% du prix final leur revient, là où l'industrie leur promet 12% de rémunération.
Alors, est-ce que le Rif est appelé à devenir la Amsterdam de la Méditerranée ?
Pour le moment, non, il n'est pas question de dépénaliser l'usage récréatif du cannabis au Maroc, même pas pour les touristes. Pourtant, cette légalisation qu'appellent certains pourrait offrir un second levier de croissance avec le tourisme cannabique, ce qui permettrait un développement accéléré du RIF, cette région rebelle qui a trop souvent été oubliée du développement par le passé.
C'est dit Kalfi, correspondant de France Info au Maroc.